Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La conspiration.
Bienvenue à la Conspiration des planches, comme chaque semaine, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, chaque mercredi dès 19h, 19h30, et en rediffusion le jeudi dès 13h30. L'équipe est là pour parler des spectacles qui ont lieu à Bruxelles et honneur au Kunsten Festival des Arts qui entame sa dernière semaine, hein, festival international de la scène contemporaine, et déjà de choses très 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 curieuses. On ira au Brigittine voir un spectacle d'un jeune Irakien exilé à Anvers, Mokhala Drassem, qui présente Monde.com entre parenthèses Facebook. On ira dans un spectacle plus que détonnant de Daisuke Miura, un théâtre japonais, un théâtre qui frôle le porno, mais pas tout à fait. Ça ne fait que baiser pendant une heure, mais ça reste du théâtre, profondément du théâtre. Enfin, on ira sur les autres scènes, parce qu'il n'y a pas que le Kunst, évidemment, et deux créations, une au Marny, où les hommes mouraient encore, et une à l'Océan Nord, à Juste tes pensées, petite sœur, deux jeunes compagnies qui se lancent dans leur premier projet, et apparemment ça a plu à Nicolas et à Sophie qui sont là pour nous en parler. Bonjour vous deux.
Salut, salut.
Bonjour.
Et donc Catherine est partie voir pour nous au Théâtre des Brigittines le Mokhala Drassem, donc Monde.com entre parenthèses Facebook. Catherine qu'on a par téléphone. Bonjour Catherine.
Bonjour, oui j'ai vu Monde.com entre parenthèses Facebook au Brigittines, donc j'en attendais beaucoup puisqu'on entend beaucoup parler de Mokhala Drassem qui avait fait forte impression avec sa création précédente, Irakes Resten, et qui remet ça au Brigittines pour le Kunsten Festival. Alors déjà d'habitude le Kunsten Festival, sa marque de fabrique c'est d'avoir des spectacles inracontables, mais alors là ça dépasse tout, c'est absolument incapable de vous résumer cette chose. Peut-être l'intention quand même. Donc Mokhala Drassem est parti de l'idée que chacun a sa propre cassette vidéo de sa vie. Donc ce film qui est censé se dérouler quand on meurt, hein, le film de toute sa vie. Et lui, sur scène, va tenter un remontage de la vie des comédiens sur scène.
Il disait justement qu'il s'inspirait de Facebook, hein, où sur un clic, on peut découvrir, je sais pas, une scène YouTube d'Obama faisant un discours. En même temps, on peut trouver une scène de mariage tout à fait anonyme, un peu kitsch au fin fond du Liban. Hein, c'est des extraits qu'on voit. Et il disait, à un moment donné, ce flux d'infos de la vie quotidienne et de la vie politique commune qui passe sur Facebook. Est-ce que tu l'as ressenti, toi ? Moi, je l'ai vu en répétition, hein, donc
alors,
je peux pas dire.
Oui, dans le sens où toute la pièce est un peu comme un zapping d'images. Alors pour ça, il est très très fort, c'est vrai. C'est une grosse débauche d'images, de sons très forts, de gestes, de plein de choses. Mais alors c'est aussi le défaut pour moi, ça paraît très décousu, extrêmement bordélique. Et on a du mal à saisir le fil rouge de cette pièce. Moi, en voyant un artiste qui s'appelle Mokhala Drassem qui crée une pièce qui s'appelle Monde.com entre parenthèses Facebook, je me suis dit, ah bah ça va parler des révolutions arabes qui se sont faites principalement sur Facebook. Bah, j'attendais, surtout par rapport à sa pièce précédente, j'attendais quelque chose d'un petit peu concret, un petit peu politique. Oui. Et finalement, pas du tout. Et je trouve surtout que c'est plein de clichés. Donc lui-même est sur scène avec un clap de cinéma. Hein. Oui. Bah, le coup du metteur en scène qui est là et qui se met en scène lui-même, c'est vieux comme le monde, je trouve. Mm-hmm. On voit ensuite, c'est vrai, plein d'images, comme on peut être bombardé quand on regarde la télé. Donc, il mélange à la fois les Schtroumpfs, Obama, Arafat ou Martin Luther King. Et puis, tout à coup, un des comédiens se met à trucider la télé parce qu'il en a marre. Mm-hmm. Bon, voilà, c'est... Je trouve qu'il y a finalement, quand on essaie d'extraire ce qui qu'il y a d'essentiel dans cette pièce, ça n'apporte pas grand-chose au Schmilblick, je trouve, même si, oui, c'est vrai, il a beaucoup d'imagination, et donc ça crée des images, on s'ennuie pas, quoi.
Mais par exemple, le début, en répétition, il y avait une espèce de prologue avec des poupées, hein, qui étaient assez cruelles, un petit théâtre de poupées, où ils sont 5-6, hein, il y a 2 hommes et 3 femmes, je crois, et ils jouent avec ces poupées qui font prendre un propos... Voilà,
oui,
sur le
ça commence. C'est vrai que ça commence pas mal. Donc, ce sont des poupées et en même temps qui ont des. Donc, on imagine des bébés, mais qui ont des têtes de vieillards presque, mm-hmm. et qui se mettent. D'abord, ça commence où ils crient tous freedom, freedom. Donc là, évidemment, on pense aux révolutions dans le monde arabe. Et puis ça part dans tous les sens. Il y en a un qui dit oh fuck the revolution, fuck everything. Voilà. Et de là, on part absolument dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que je peux pas vraiment vous résumer. Il y a cette comédienne surprenante qui est enceinte, mm-hmm. Je dirais déjà de 7 mois, alors ça c'est très étonnant, j'imagine qu'elle n'ira pas à terme à ce rythme-là, et ben, peut-être que le fait d'être enceinte apporte par moment quelque chose d'assez fort à ces films de vie décousue, intense.
Mais est-ce que tu ne sens pas, parce que voilà, quand on est au Kunsten Festival, on s'attend à voir des metteurs en scène étrangers qui parlent de là d'où ils viennent, hein, quand même. Sinon, mm-hmm. si c'est pour revoir ce qu'on voit ici, on est. Et c'est vrai que moi, en répétition, je lui ai demandé, mais tiens, on ne parle pas des révolutions arabes et ou de l'Irak. On s'attend aussi, on a Satan qu'on rencontre un artiste irakien ou iranien ou japonais qu'il parle un peu de leur. Et lui disait, dans Irak Gesten, il en a parlé et il est fatigué parce qu'il dit, toute son identité se résume à la politique en Irak et on sent vraiment qu'il est usé et qu'il se replie dans l'art. Mais pourtant, il est lui-même perturbé parce qu'il dit, voilà, c'est toute une partie de ma vie et comment je dois en parler. Dans la pièce, je ne sais pas s'il l'a gardée, c'est le terroriste.
Oui, Catherine. En effet, il y a un personnage qui s'immole par le feu. Mmh. Donc évidemment, ça évoque plein d'images dans la tête des spectateurs, plein de souvenirs. Et ça, peut-être aussi, c'est pas mal. Les choses sont très ouvertes, donc rien n'est explicite. Donc on peut y voir plein de choses. Moi, je discutais avec mon voisin qui avait imaginé d'autres choses que moi à partir des mêmes images. Mmh. Donc ça, peut-être que c'est assez réussi. Mais moi, j'aurais aimé peut-être un contexte un petit peu plus clair, ou un fil rouge, rien qu'un fil rouge.
Rien qu'un fil rouge. Voilà, ouais. Donc c'est le désavantage de monde.com, hein, de faire comme une toile de Facebook, où c'est finalement des scénettes qui, pour Catherine, ont l'air très décousues. Mais Catherine, tu le recommandes dans ton Kunsten, palmarès du Kunsten?
C'est pas mon coup de cœur, non.
Ok. Donc Mokala Drassem, si vous voulez voir ce que ça donne un spectacle décousu sur Facebook, moi je l'ai vu en répétition et j'avais aimé. C'est à voir jusqu'au 28 cette semaine, finale du Kunsten au Théâtre des Brigittines, en plusieurs langues, néerlandais, arabe, anglais et français.
Espagnol aussi, je vois.
Espagnol. Et les sous-titres se font en live. Merci Catherine, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir, au revoir. Voilà, alors Mokala Drassem de... Bon, une pièce que Catherine n'a pas beaucoup aimée. Moi, je vous emmène voir autre opus du Kunsten Festival des Arts.
On change de continent, là.
Là, carrément, c'est les Japonais. C'est la première fois qu'il vient en Belgique. Daisuke Miura, né en 1975. Ça a peut-être son importance, ce jeune gamin qui vient nous proposer un spectacle assez trash, parce que c'est très inhabituel. C'est un spectacle sans parole. C'est un spectacle sans parole. Et c'est pour montrer un peu une société amorphe, une jeunesse amorphe, hein, une fin de civilisation. Et il le dit, voilà, ce sont des gens dans un flat qui sont là en train de vivre leurs besoins primaires, bouffer, baiser et dormir. Et là, il nous a pas menti sur ses notes d'intention, parce que c'est vraiment ce qui se passe sur scène. Tout ça mis dans un théâtre très important. Nous, on est spectateurs. Devant nous, la pièce commence comme un prologue. Donc, il y a une baie vitrée avec un balcon et quelques poubelles à l'arrière. Donc, c'est un théâtre très réaliste. Et il y a des pans de rideaux qui tombent comme au cinéma et qui annoncent. Voilà, là, il est 2h30 du matin. matin, avec une musique très, très rap, très hip-hop à fond la caisse. 2h30 du matin, rideau s'ouvre, on est face à cette baie vitrée et on voit dans une espèce de fouillis très coloré, des matelas à terre, une pièce, hein, une pièce commune où il y a 6-7 personnes, 2 filles, je pense, et 4 garçons entassés en train de roupiller, certains lisent des mangas, d'autres jouent aux jeux électroniques. Donc on est dans une situation, dans un état, comme on verrait à travers une vitre, hein, directement on est posé en tant que voyeur. Et toute la pièce va se passer voilà, sur ce microcosme qu'on observe dans ce flat, coupé de noir, comme on dit au rideau, donc de rideaux qui tombent en annonçant les heures. 2h30 du matin, on les voit à 9h30, on les voit à 6h30 et on les voit à 3h du matin. Donc on a quasi 24 heures de la vie de ces gens.
Et que font-ils ?
Et alors voilà, c'est un théâtre sans parole, de déplacement et énormément donc de cul. Sur scène, donc c'est pas le théâtre porno, mais voilà. Alors c'est un cul très, c'est de la petite baisse quoi. C'est des gens qui sont à un moment donné allongés entre deux mangas. Le gars, il se lève pour aller boire un coup dans le frigo. Voilà, il y a une jambe qui est là, il la prend, il l'écarte et il lui enlève la culotte et il la pénètre. Alors toute la question évidemment est de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il baisse vraiment ou est-ce qu'il ne baisse pas vraiment. Moi je vous le dis d'emblée, on doute un peu, mais c'est bien de laisser cette imagination au spectateur, sauf qu'à un moment donné, désolé de vous le dire, il y a un gars qui éjacule dans la gueule d'une gonzesse, et là je crois qu'on reste un peu calé, parce qu'on se dit, bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi je dirais, mon avis personnel, c'est faux, parce qu'au théâtre, les comédiens sont là, c'est des comédiens professionnels, ils sont là pour jouer, ils doivent assurer un spectacle d'une heure, donc ils sont concentrés dans ce qu'ils font, ils sont pas concentrés dans leur plaisir, dans le lâcher prise, de l'orgasme et tout. Donc tout ça est un peu joué et ils n'ont pas quand même, on ne les voit pas en érection, mine de rien, ces gamins. Et quand il éjacule, il a un visage très, très silencieux pour quelqu'un qui a un orgasme.
Et puis c'est contrôlé, c'est du théâtre, c'est pas de la performance, de l'impro.
Non, on est vraiment dans le théâtre. Et d'ailleurs, je dirais une phrase que le metteur en scène dit dans une interview. Mon souci d'exactitude concerne uniquement la gestuelle, le déplacement scénique. Donc voilà, donc c'est juste son souci, ça a été dans cette hyper réalité en train de voir ce qui est à un moment donné. Donc on rentre, moi je me suis mis directement dans un état de contemplation, c'est voir un état d'une jeunesse qui est là dans le vide d'un appartement et voilà, il ne se passe rien.
Aucun dialogue,
à peine des bruits d'orgasme des filles, les mecs non. Et on est là, voilà, entre les jeux électroniques, la télé qui va, ces gens qui se lèvent, qui baissent, il y a les toilettes, tout ça dans un... Voilà, de temps en temps, ils se chotent dedans parce qu'ils sont à 8 entassés dans des matelas. Alors, si tu déranges un mec qui lit son manga, il y a un pied qui part et puis alors il y a un autre qui répond. Et puis à un moment donné, ça devient complètement la débandade. Et alors, c'est vraiment l'idée de, je vous disais, de la petite baisse. Donc, on couche avec les corps qu'on trouve. Donc voilà, il y a un partage et tout. Moi, je me suis dit à un moment donné, bah alors va jusqu'au bout de ton idée à un moment donné que les mecs se baisent entre eux, quoi. Parce que c'est vraiment le début. Ce qui est impressionnant, c'est que voilà, on prend de la chatte. Voilà, on prend une fille, on l'écarte, on la bourre et on se casse. On est dans cet état de
d'hyper-réalisme voilà, et de premier degré finalement
et d'animalité. Alors on se discute avec un ami. Si on le prend au premier degré, on est lassé parce que c'est vraiment ils ne font que ça. Ça devient lourd. Une heure et quart. Voilà, après les premières surprises des débuts. Et puis à un moment donné, quand on va au-delà et qu'on est dans la contemplation d'un état de gens amorphes qui n'ont rien, qui n'ont aucun projet et tout, là, on commence à voir les détails. Ce qui est impressionnant, c'est que ces jeunes, ces comédiens, ne se regardent jamais. Il y a une espèce de tension comme ça et d'indifférence l'un pour l'autre, alors qu'ils vivent ensemble. Et à un moment donné, ils partagent les nouilles. Il est 6h30, ils bouffent. Et là, tout doucement, comme dans un déplacement chorégraphique, il y a une amitié qu'on découvre, qu'on aperçoit à peine entre ces gens. L'un fait les nouilles, ils se retrouvent ensemble. Il y a un peu de regard qui s'échange. Et puis hop, on repart dans un quotidien, chacun pour soi. Et voilà. Je baisse, j'ai envie, j'ai pas envie. On se lève le matin, on est dans un truc très réaliste. On se lève le matin, on se gratte les couilles. Donc voilà, on est dans cet état. Donc c'est un spectacle qui ne choque pas, contrairement... Enfin, voilà, nous, on a l'habitude de voir des scènes et c'est pas donné à tout le monde, c'est au-delà de 18 ans. Ça ne choque pas, c'est très inhabituel parce qu'on n'en reverra pas souvent un théâtre comme ça. Et si on est dans une confrontation, quelqu'un a dit, et je trouvais ça très juste, c'est un peu une radicalité facile. Mais en même temps, c'est d'abord de 1, bien joué. De 2, il a évité le théâtre porno, qui est vraiment une autre façon de faire du théâtre. C'est un théâtre très spécifique qu'on voit dans des boîtes et dans des machins. Et il a réussi à donner un état d'une génération. Voilà. Bon, maintenant, c'est un état d'une génération japonaise où apparemment le vide est très sensible. La personne, le Daisuke Miura, fait un discours justement sur le vide de sa génération qu'il voulait montrer sur scène.
Avec un titre tout à fait désenchanté, Castle of Dreams, Château des Rêves.
Voilà, il laisse une place au spectateur pour qu'il crée lui-même son contenu et il essaye de montrer justement la pesanteur d'une société vide. La pesanteur, on la reçoit parfois parce que voir une heure de baisse comme ça en chronique, continu, on baise, on bouffe, c'est un peu lourd, mais l'expérience vaut quand même le détour. C'est à voir jusque cette semaine au Bœuf.
Jusqu'au 28 mai.
Donc jusque samedi au Bœuf, dans le cadre du Kunsten Théâtre, du Kunsten Festival Théâtre, qui chaque année nous surprend. L'année dernière, c'était les Hongrois dans un hangar, ils faisaient un film porno de mafia à l'est dans des camions. Cette année, c'est dans un appartement Tokyo Hit.
www.kfda.be.
Pour digérer tout ça, une pause musicale.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Oui, et dans l'imaginaire des artistes qui décidément nous surprennent. Alors, le CUN se termine le 28, www.kfda.be, et les autres scènes à Bruxelles offrent aussi des créations assez intéressantes. Et justement, Sophie, tu es partie voir pour nous ce spectacle aussi étonnant, Ajuste tes pensées, petite sœur, à l'océan Nord.
Voilà, ce sont les deux jeunes comédiennes qu'on voit dans la pièce qui écrivent aussi le spectacle, Sarah Brahi et Aline Mao. Et voilà, elle nous emmène dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est réaliste. On a les murs, les pans de murs, comme dans un hôpital. La lumière blanche, néon, la petite machine à café, la petite plante, très réaliste. Et dans cet hôpital psychiatrique, il y a une jeune femme, Alma, qui entre pour se faire soigner. Alma a toujours été quelqu'un de bien, bien dans ses baskets, une fille sans problème. Mais un jour, elle perd sa maman, puis les années passent, elle a un enfant de 3 mois. Et puis là, on ne sait pas ce qui se passe, elle agresse un policier dans la rue qui venait l'aider. Enfin bref, un comportement désorganisé, comme dira le médecin dans la pièce. À l'hôpital, elle va rencontrer Myriam, qui est une jeune pensionnaire perturbée, énigmatique, et qui, au fur et à mesure, va se révéler un bon médicament pour elle. Alors, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que on a seulement 2 comédiennes sur scène qui interprètent tour à tour les patientes et les infirmières. Alors, on a droit à des infirmières souriantes, gentilles, mais très robotiques. On a un peu l'impression que ce sont des hôtesses de l'air et qui vont parler en chœur et donner de manière très robotique le contenu d'une journée d'infirmière. Voilà, et ça vient entrecouper comme ça. On passe.
Il y a une fable de trame, il y a une histoire avec.
Alors, c'est fragmenté. On est vraiment, donc, les patientes, les infirmières, c'est quelque chose de déconstruit. J'ai trouvé ça, justement, intelligemment construit pour une première écriture. C'était vraiment bien fait.
Et est-ce qu'on voit la folie? Est-ce que le but
Alors,
est
oui,
de montrer la folie?
Oui, je sais pas si c'est le but premier. Enfin, oui, certainement, c'est quand même, on est là-dedans, on est dans les maladies mentales et ce qu'on peut faire pour en sortir et surtout comment on y arrive. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est par moments les rôles deviennent plus flous. Donc on a ces 2 comédiennes qui ont juste un petit chapeau d'infirmière sur la tête, qui jouent les infirmières. Elles enlèvent le chapeau, elles deviennent les patientes. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, bon, la pièce elle est courte, hein, elle dure à peine 1h20, mais au fur et à mesure, voilà, il y a un côté très flou qui s'installe. L'infirmière commence à prendre des médicaments. L'infirmière qui joue le rôle de l'autre jeune fille, Myriam, voilà, elle prend des médicaments, elle nous dit qu'elle ne sait même plus comment elle s'appelle. La Myriam, on ne sait pas si elle existe vraiment, si elle est dans la tête d'Alma. Donc il y a tout un côté comme ça dans le psychologique et qui est vraiment bien fait. Et alors il y a aussi un médecin qui passe sur scène, c'est le troisième comédien. On a donc ce médecin qui lit un peu le tout, parce que malgré tout, on est dans quelque chose de tragique, donc sur la folie, les maladies mentales, les délires, les hallucinations, mais il y a un côté humoristique en fait, et ça passe par un geste, par un regard, dans l'interprétation, et aussi par la présence de ce médecin. Donc il est un peu le témoin silencieux de leur folie, finalement. Et il m'a un peu fait penser au chat dans Alice au Pays des Merveilles, vous savez, qui débarque de nulle part, qui donne des conseils, qui parle de d'on ne sait quoi. Voilà, c'est un peu le rôle de ce médecin. Il vient, alors, par moments, dans un délire hallucinatoire ou juste dans sa tête, elle dit « j'ai faim », et puis il arrive avec une table, et elles sont au restaurant, et là, paroles insensées, mais c'est drôle
donc,
en même
voyage.
Temps.
Donc, on est dans l'hôpital psychiatrique, et la folie nous permet justement
la folie,
de voyager.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je dis aussi c'est fragmenté, parce que on a cette scénette où Alma va se confier et dire pourquoi elle en est arrivée là. Puis à un autre moment, elle ferme les yeux, hop, noir, elles sont dans une gare, il y a des bruits partout, elle se prend un délire. Puis les infirmières reviennent et nous font une petite scène, genre répondeur automatique, si vous êtes schizophrène, tapez 1, blablabla. Donc c'est vraiment drôle aussi.
Mais est-ce qu'on ressort avec une image romantique, entre guillemets, de la folie, ou bien il y a vraiment ça prend à un moment donné aux tripes?
Alors, ce que ça développe, je dirais, c'est plutôt l'idée de... ça peut arriver à n'importe qui, voilà, au détour d'une expérience de vie, on peut sombrer dans cette folie, et peut-être même qu'on n'aura pas envie d'en sortir parce qu'on s'y sent bien, parce que il y a pas de responsabilité, parce qu'on est dans un cocon, dans un hôpital, et voilà. Et il y a d'ailleurs une phrase qui revient un peu comme un intermède plusieurs fois dans le spectacle, qui dit: est-ce qu'on est fou ou est-ce qu'on le devient? Et voilà, donc je pense que c'est ça le propos de cette pièce aussi. Propos qui, c'était la toute première. Donc, jeune comédienne qui écrivent, qui mettent en scène. C'était la première hier au théâtre C'est en Or. Au début, on a un peu de mal à entrer dans cette pièce. Le jeu n'est pas toujours évident. On se dit un peu, tiens, quel est le caractère de cette personne? Elle est toute calme, toute renfermée. Et puis finalement, elle est spitante, donc c'est très bizarre. Et on se dit, ça manque peut-être d'un propos. Et puis, au fur et à mesure, on se laisse emporter. Le jeu d'Aline Mao est remarquable. Elle passe par tous les états. Et je pense que on peut garder ces jeunes comédiennes en vue, et elles seront prometteuses.
L'Océan Nord qui poursuit son exploration de l'esprit humain et de toute son ambiguïté.
Donc, à voir.
C'est à voir jusqu'au 4 juin au Théâtre Océan Nord. Et pour les informations, c'est le 02 216 75 55 ou océannord.org.
Eh bien, décidément, c'est une émission pagaie-pagaie, hein, parce que Nicolas, toi, tu nous emmènes voir la mort, carrément.
Pagaie-pagaie, rame, je dirais.
Alors,
j'abandonne ce jeu de mots. Mais pour vous emmener dans le monde de la mort, religion et tradition nous imposent une manière bien particulière d'appréhender la mort. Quand on doit pleurer, comment on doit pleurer, comment on doit accepter ce phénomène. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est plus tout à fait libre de penser et d'appréhender la mort comme on le souhaite, un peu dans des carcans, comme ça, dans des modèles, dans des schémas types que l'on doit respecter pour être vraiment intégré dans la société. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et ce qu'ont décidé Sophie Limaud et Aurelio Mergola, c'est de couper court à tout ça et de réappréhender la mort et de laisser libre cours à l'imagination pour appréhender la mort. Je vais dire que le spectacle, hein, Où les hommes mourraient encore, qu'il propose au Marny jusqu'au 28 mai, eh bien, est un ensemble de sketchs comme ça, ou en tout cas une espèce de panorama des attitudes face à la mort. On sent bien qu'au début et par moment, il y a des passages où ils essayent de faire en enfilade et bien toutes les manières dont on doit présenter ses condoléances aux gens. C'est très drôle d'ailleurs ce passage-là. Et ou alors il y a d'autres passages où ils essaient de défier la mort et ils se rendent compte, ah oui, on n'a pas défié la mort, et une approche du suicide qui est finalement assez rocambolesque, hein, comme ça. C'est assez drôle. On est donc emmené dans cet univers un peu burlesque avec un jeu de plateau tout à fait formidable et vraiment inventif et créatif. Ils sont installés dans le labo du Marny, qui est vraiment un théâtre nu, hein, comme ça. Ils avaient vraiment une matière brute à utiliser, et ils ont choisi d'utiliser un immense plateau cendré, recouvert d'une couche de cendres, hein, les cendres, la mort, la crémation, bien évidemment, avec en fond, au début du spectacle, une petite cabane. Petite cabane qui sera le centre des élucubrations des trois comédiens présents sur scène. scène et qui va voyager. Et oui, et c'est ça un peu la force également de ce spectacle et de cette appréhension de l'espace qui s'ouvre à eux au Théâtre Marny, c'est de faire voyager cette cabane pour eh bien alterner leur sketch et leur recette face à la mort. C'est un peu ça. Un spectacle totalement muet et qui laisse un petit peu sans voix également, puisque on remarque que finalement, pour appréhender la mort, pas besoin tant de mots. Il y a bon quelques passages, notamment quand elle écrit une chanson ou une poésie comme ça. C'est aussi assez agréable à entendre, mais c'est surtout agréable à voir, avec des postures parfois même un peu clownesques qu'utilisent Marine Bestel, Francesco Italiano et Muriel Legrand sur scène.
C'est vraiment une belle petite surprise de fin de saison, parce que les deux que vous parliez, Sophie et Nico, ce sont deux spectacles de jeunes créateurs. Hein, et on voit qu'on nous dit depuis quelques temps et on le voit que les jeunes créateurs ont du talent. Et effectivement, la scénographie est dans ton spectacle, Nicolas, que j'ai vu au Marny, la scénographie est très, très impressionnante et l'image reste encore longtemps.
Oui, parce qu'il y a un beau jeu aussi sur la lumière et on est vraiment emmené sur ce terrain vague de cendres à suivre cette petite cabane. Alors, c'est pas lourd, évidemment, hein, cette approche de la mort. Il y a une musique un petit peu fanfaresque des Balkans, comme ça, hein, qui découpe le spectacle. Il y a certaines choses qui auraient pu être un peu plus ramassées, mais bon, on va dire que c'est une première fois et que c'est déjà prometteur.
Et c'est très décalé et inhabituel de casser les conventions qu'il y a autour de la mort, donc des beaux spectacles.
Où les hommes mouraient encore, donc à voir jusqu'au 28 mai au Labo du Théâtre Marny, c'est à la rue de Verny, www.theatremarny.com.
Eh bien, drôle d'émission, cette conspiration des planches. Dernière semaine du Kunsten avant l'année prochaine. Donc, on a eu un spectacle sur Facebook, un autre japonais sur le sexe et le vide, un autre sur la folie et un dernier sur la mort. Est-ce que notre temps n'est pas dans cette conspiration des planches?
Mais quelle fin de saison!
Oh, nom de Dieu! Alors, à la semaine prochaine, vous retrouverez Catherine et juin s'annonce énormément avec des spectacles de danse. Et là, on verra que la danse fait aussi écolo. On en reparlera la semaine prochaine, c'est en juin. Bonne planche et n'hésitez pas à aller vous frotter à ces spectacles étonnants.
Et n'hésitez pas non plus à nous réécouter en podcast sur www.demandezleprogramme.be ou également sur radiocampusbruxelles.org. Belle semaine à vous.
Conspiración.